Bonjour, donc je suis Valérie Loz de l'Université de Provence et je vais vous parler des lapidaires médiévaux aujourd'hui. Donc les lapidaires médiévaux sont des textes encyclopédiques qui traitent des pierres précieuses, qui sont un peu le pendant des bestiaires, si vous voulez, pour les pierres précieuses. Mais contrairement aux bestiaires, ils sont assez peu connus, assez peu diffusés et très rarement enluminés. Donc là, pour illustrer mon propos, j'ai sélectionné quelques enluminures où on voit des pierres précieuses, et notamment celle-ci qui est conservée à Lyon, justement. Donc ce sont des représentations de pierres précieuses que vous trouvez là, dans un bréviaire d'amour, hein, parce qu'il y a souvent des relations qui sont faites entre les sentiments amoureux et les pierres précieuses. Donc moi, je vais vous parler des lapidaires à proprement parler, c'est-à-dire des traités encyclopédique sur les pierres précieuses. Depuis l'Antiquité, les vertus des pierres sont utilisées en médecine. La médecine des signes ou médecine des signatures se fonde sur des analogies entre les organes du corps ou les symptômes des maladies et les formes, les couleurs ou les goûts de certaines pierres ou plantes. Cette logique du semblable ancestral se retrouve dans d'autres formes de médecine comme l'homéopathie. La glyptique, l'art de graver les pierres pour leur conférer des pouvoirs magiques, s'appuie sur le même raisonnement. Une pierre qui porte la gravure d'un serpent protège, par exemple, des morsures du serpent et de l'empoisonnement au venin. Le prologue du lapidaire chrétien et l'épilogue du lapidaire alphabétique de Philippe de Temps précisent que Dieu a donné une myriade de vertus aux gemmes, à l'intention de l'homme, qui doit être capable de lire et de comprendre les signes de la nature pour bénéficier de ses bienfaits. Quel est le mode d'emploi des vertus des gemmes? Les lapidaires proposent de véritables posologies, modelées par la pensée analogique, dont nous présenterons quelques exemples. Cependant, ce sont avant tout les couleurs qui induisent les vertus, comme le montre la palette de gemmes que nous avons retenue, l'escarboucle, le diamant, l'émeraude et le saphir, qui correspondent aux quatre pierres précieuses de notre typologie actuelle dans la mesure où l'escarboucle se confond avec le rubis, puis les gemmes noires et les gemmes animales. Le prologue du De Lapidibus de Marbode de Rennes, l'un des lapidaires les plus célèbres et les plus lus, affirme dans sa première version en langue romane que les pierres sont très utiles aux médecins grâce aux qualités dont Dieu les a pourvues, d'où leur appellation de précieuses. Leurs vertus seraient plus nombreuses et plus efficaces que celles des plantes. L'Imir y trouve grand secours, s'ils qui connaissent leur valus, à faire médecinement, y trouvent grand secourement. Nus sagios hom dute ne duet, camperes grands vertus ne suet, en herbes ne sont en trouvées, vertus si suent esprouvées. Deux lisimis glorieuses, pour ceux s'appellent précieuses. Donc je traduis le texte de Marbode. Les médecins, ceux qui connaissent leurs vertus, en tirent de grands avantages. Pour faire leur médecine, ils y trouvent de très efficaces remèdes. Aucun homme de science ne doit mettre en doute le fait que les pierres possèdent de grandes vertus. Dans les herbes, on ne trouve pas de vertus qui ont fait autant leur preuve. Dieu les y mit pour leur très grande gloire. Pour cette raison, elles s'appellent précieuses. Il existe différentes façons d'utiliser les pierres, de rendre efficientes leurs vertus. Dans l'épilogue de son lapidaire alphabétique, Philippe de Temps présente quatre posologies. En ce que toutes quatre manières, mustra médecine d'espère, pour le toucher, pour le porter, pour le bevre, pour l'esgarder. Donc en résumé, il existe quatre posologies pour l'usage des pierres en médecine, par le toucher, par le port, par l'ingestion en boisson et par le regard. Les articles précisent la préparation qui permet de bénéficier des vertus de la pierre. Il faut parfois la broyer, comme dans la pierre Exebenus, dans le même texte. Celle est en neve bien tribrée, ou bien menue au vin soldé, et puis à bèvre souhait donné à femme qui souhait forcenée, tantôt viendra à sa santé, comme le col l'y avra passé. Donc finement broyée dans l'eau, ou dissoute dans du vin, puis donnée à boire à une femme atteinte de folie, elle lui fera retrouver ses esprits dès qu'elle l'aura avalé. Cependant, les vertus de la gemme dépendent étroitement de l'attitude, plus exactement de la moralité et de l'éthique de celui qui la porte et s'en sert. Les vertus de la pierre se méritent. Prenons l'exemple du saphir aux multiples vertus. L'article s'achève sur ces vers dans la première traduction de Marbode. Portez ce vote mousse chastement et gardez mout honnêtement, et qui ici la gardera, ja poverte nasconestra. Donc elle veut qu'on la porte chastement et qu'on la garde honnêtement. Celui qui la gardera de la sorte ne connaîtra jamais la pauvreté. Mal se comporter diminue les vertus de la pierre et peut même la détruire. Ainsi, l'émeraude est une pierre tellement chaste qu'elle se brise si on la porte lors d'un rapport sexuel, comme le précise le lapidaire de Jean de Mandeville. Hommes et femmes, quand ils habitent entre eux charnellement, ne la doivent avoir sur eux, car la pierre se trouble, rompt et empire. Donc l'homme et la femme, quand ils ont des relations sexuelles, ne doivent pas la porter sur eux, car la pierre devient trouble, se brise et perd ses vertus. De même, le diamant aura d'autant plus de pouvoir qu'il sera donné. La générosité exacerbe les pouvoirs de la gemme, au contraire de la simple vente. Tout se passe comme si la pierre ressentait la générosité ou la vénalité de celui qui la possédait, et en conservait une empreinte positive ou négative, avec des effets collatéraux sur ses pouvoirs. La pierre est donc capable d'éprouver des sentiments. Le diadoque, qui possède la faculté de ressusciter les morts et de donner l'immortalité, déteste la mort, particularité que toute la tradition marbodienne met en exergue. La pierre est sainte et la mort est. Il importe également de porter correctement la gemme, montée sur or ou sur argent, portée du côté gauche ou du côté droit, afin de renforcer l'efficacité des vertus. On connaît l'importance symbolique de la latéralité. Valoriser le côté droit et le bon côté, celui de la justice et du comportement adéquat. Diaboliser le côté gauche, sinistre, et celui de la déviance, du comportement illicite ou illégal. Dans la première traduction de Marbode, seules quatre pierres sont apportées du côté gauche, le diamant, la chrysolite, la chélidoine et l'épistite. Elles possèdent toutes des vertus protectrices contre le diable, les catastrophes naturelles ou l'adversité en général. On peut s'étonner que le diamant, l'une des pierres les plus valorisées, soit portée à gauche. Cette pierre invincible possède en effet de nombreuses qualités protectrices, mais c'est aussi une pierre utilisée par la magie noire, la nécromancie. C'est en référence à ce côté obscur que la pierre doit être portée du côté gauche, qui fait également écho à la naissance de la gemme en Orient, du côté gauche du monde. La médecine des signatures a également fondé la théorie des humeurs, qui permet d'expliquer et de soigner les émotions des hommes. La doctrine médicale de la théorie des humeurs remonte à l'Antiquité et est restée en vigueur jusqu'au XVIIIe siècle. Selon cette théorie, la santé du corps et de l'âme repose sur l'équilibre des quatre humeurs, donc sang, phlegme, bile jaune et bile noire, qui se concilient avec les quatre qualités, chaud, froid, sec, humide. Quand l'une de ces humeurs prédomine de façon chronique chez un individu, on parle de tempérament. Le dérèglement humoral qui provoque les maladies s'explique également par l'effet des quatre éléments. Les pierres sont à même de remédier à ces dérèglements. Selon le lapidaire de Jean de Mandeville, le saphir, la calcédoine, la pierre au comte et la pierre de l'azur soignent la mélancolie. L'émeraude est efficace contre la luxure, la topaze contre la colère et la luxure, etc. A contrario, la pierre à la bandine ou l'onyx provoque la mélancolie. Les planètes exercent aussi une influence sur la santé des hommes. Ainsi, les phases de la lune provoquent des changements d'humeur, rendent lunatiques, état que le diamant ou la pierre de lune peuvent soigner. La théorie des humeurs propose de combattre une maladie par son contraire. Les vertus médicales des pierres reposent aussi sur cette notion d'analogie inversée. Ainsi, la gélasse ou galatine, qui vient de l'étymon grec kalasias grêlon, est une pierre froide qui apaise les maladies chaudes et éteint le feu. Elle est liée à la bile jaune, l'humeur du feu. Donc je lis un passage de l'article. Galèse ou galatine est pierre blanche, semblant à un grêlon qui chiette du ciel et est très dure, si comme diamant, et est très froide. Car si on la met devant une maison ardente, elle éteint le feu. Elle est adesfroide et est faite de rosée du ciel, c'est comme la perle, la plus grande à la quantité de la moitié d'une nouée. Elle apaise ire et luxure et vaut contre les chaudes maladies, fièvres et autres maux. Si on l'a en sa bouche, elle fait départir la soif. On trouve en Inde les meilleures et en Bretagne sont les plus grandes. Les vertus des gemmes découlent donc de leurs caractéristiques physiques, de leur aspect et plus généralement de leur couleur. Rappelons que le code chromatique du XIIe siècle était fondé sur trois couleurs. Le noir, donc qui équivaut symboliquement au non-teint et au sale, le blanc, non-teint et propre, et le rouge, le coloré, la couleur par excellence. Évoquer la couleur revient alors à suggérer le rouge. Le rouge est la couleur préférée de l'Occident médiéval jusqu'au XIIIe siècle, où il est supplanté par le bleu. Le saphir connaîtra alors une promotion dans les lapidaires. Les couleurs des pierres précieuses dépassent largement la gamme de ce système, car elles rendent compte de la réalité du monde minéral, d'une immense richesse chromatique. Néanmoins, certaines couleurs, plus chargées de symboles que d'autres, sont privilégiées et associées à davantage de vertus. Donc pour commencer, la plus célèbre peut-être, l'escarboucle. Le lapidaire médiolatin de Marbotte de Rennes ne consacre que quelques vers à l'escarboucle, dont il souligne l'extraordinaire clarté, capable d'illuminer la plus sombre obscurité. Donc là, j'ai reproduit le texte latin que je vous traduis. L'escarboucle surpasse toutes les pierres étincelantes, car elle jette des rayons de toutes parts, comme du charbon ardent. Elle semble tirer son nom de ce phénomène. Mais la même pierre est appelée anthrax en grec. Aucune obscurité ne peut éteindre sa lumière. Elle envoie toujours ses feux étincelants dans les yeux de celui qui la regarde. Elle naît en Libye, dans la région des troglodytes, et on en dénombre 12 espèces. La première traduction de Marbotte en langue romane, conservée dans un manuscrit bilingue, apporte une modification qui, pourtant subtile, s'avérera déterminante pour le devenir littéraire de l'escarboucle. Donc c'est le texte au-dessous. Schelboucle qui jette de sueres, plus ardent pierre niames, de sa clarté la nuit resplend, mais le jour n'en fera néant. Naissent dans la terre astroglodite, 12 manères en sont dites. L'escarboucle émet des rayons par elle-même. Il n'existe pas de pierre plus brillante. Elle éclaire la nuit par sa clarté, mais n'en fera rien le jour. Elle naît dans la terre des troglodytes, 12 variétés en sont répertoriées. Dans le texte latin, Marbotte insiste sur la lumière qui émane de cette pierre, en l'opposant aux ténèbres. Dans le texte roman, le pouvoir lumineux se limite à la nuit, et l'escarboucle devient un relais nocturne du soleil. L'erreur de traduction donne naissance à une vertu majeure. Cette modification se retrouve dans tous les lapidaires de la tradition marbodienne, en vers comme en prose. L'escarboucle à la clarté nocturne sera utilisé comme phare ou comme luminaire dans les textes romanesques. Quelle est la couleur de l'escarboucle? Les textes ne la précisent pas. Elle est suggérée par la comparaison avec le charbon ardent. Étymologiquement, l'escarboucle vient du charbon ardent, carbunculus, qui évoque une couleur changeante et flamboyante. La formule « rouge comme charbon », souvent utilisée dans les textes médiévaux, témoigne de cette association. L'escarboucle, cette pierre à la clarté flamboyante, ne possède pas de vertu, ce qui est présenté comme regrettable par certains lapidaires. Pour y remédier, les clercs vont confondre l'escarboucle avec une autre gemme rouge, le rubis, du latin ruber, rouge, qui, elle, possède de nombreuses vertus, découlant par analogie de sa couleur qui évoque la passion amoureuse, mais aussi le sang. Par un mouvement centripète, le rubis escarboucle attire et concentre toutes les vertus des autres gemmes. Des 12 pierres mâles et femelles, pour reprendre la formule du lapidaire chrétien. La clarté de l'escarboucle redevient pérenne à la faveur de cette confusion avec le rubis. L'escarboucle est également assimilée à une autre pierre, la dracontite. On en reparlera plus tard, qui, comme son nom l'indique, croît à l'intérieur du dragon, plus exactement dans sa tête. Philippe de Temps explique dans son lapidaire alphabétique comment les magiciens s'y prennent pour s'emparer de la pierre. Donc là, je vais lire seulement la traduction. Dracontite est le nom d'une pierre qui vient du dragon. On la nomme Draconitidus à cause du dragon dans lequel on la trouve. Elle a pour nom escarboucle en français. Les rois l'apprécient pour sa lumière, les enchanteurs par leurs formules magiques ensorcellent les dragons pour les endormir, puis ils vont leur ôter la tête. Après leur avoir tranché la tête, ils ont gagné la pierre. Elle est très prisée du fait de sa clarté. Ils la vendent cher à de nombreux rois. Le lapidaire le plus tardif de notre corpus, celui de Jean de Mandeville, accorde une place importante à la glyptique et conseille de tailler un dragon sur l'escarboucle pour rendre ses vertus plus efficaces. L'escarboucle est une des rares gemmes à être confondue avec d'autres pierres sans perdre son identité. Cette malléabilité s'explique par son absence de vertu, qui semble d'autant plus gêner les clercs que sa couleur rouge s'ouvre facilement à de nombreuses vertus analogiques, comme l'atteste une autre pierre, l'hématite. Du grec hématos, sang, l'hématite en possède la teinte. On lui prête par conséquent des vertus liées au sang, plus particulièrement la faculté d'arrêter toutes sortes d'hémorragies. Donc je lis une traduction. Il y en a une autre, l'hématite, dont la vertu n'est pas mineure. Elle arrête naturellement l'écoulement du sang et soigne facilement les maladies de peau. Quand elle est finement broyée et mélangée avec du blanc d'œuf, elle ôte la dureté des paupières et rend la vue claire. Celui qui crache du sang, s'il a la pierre, il la limera avec une roue à meuler et mélangera la pierre broyée à du jus de pomme rouge ou à de l'eau. Cette potion le guérira immédiatement. Elle est très utile aux femmes. Elle limite le flux des règles quand il est trop abondant. Elle limite l'écoulement du sang et arrête la diarrhée. Elle accélère la cicatrisation. Le rouge est également la couleur de la mise en scène du sacré et du pouvoir. Le rubis balai, autre variété de rubis, hérite de sa couleur rouge des vertus liées au pouvoir. Cette pierre rend celui qui la porte supérieur à toute forme d'adversité, violence des sentiments, des éléments, des animaux sauvages ou bien encore de la guerre. Passons maintenant à une autre pierre célèbre, le diamant. Mais pour parler du diamant, il faut parler d'abord de la perle. Au sommet de la hiérarchie des gemmes, le diamant naît de la rosée du ciel, eau céleste qui fait partie des eaux d'en haut, séparée des eaux d'en bas lors du deuxième jour de la création. Il convient ici de faire une digression sur la conception des gemmes. Considérées comme des créatures, elles sont classées selon une différenciation sexuelle, naissent, se reproduisent et meurent. C'est la conception de la perle, identique à celle du diamant, qui est le plus souvent décrite dans les lapidaires. La perle naît de la rosée du ciel et se développe dans l'huître qui lui sert de matrice. Les lapidaires distinguent alors différentes qualités de rosée selon le moment de la journée, variations qui vont induire un changement de couleur de la perle. La maturation de la perle est sensible aux conditions météorologiques qui peuvent provoquer un avortement minéral, comme l'explique le lapidaire de Jean de Mandeville. Marguerite ou perle, qui est appelée oignon car elle est de plusieurs vestements et à plusieurs côtés, une après l'autre, c'est comme un oignon. Elle est sconchute en coquille en rive de mer et autres fleuves de la rosée du ciel. Cela rosée est conchute en la matinée et la rosée soit pure et claire, à donc sont les perles blanches et claires. Cela rosée est conchute aux vespres et la rosée n'est mi pure, les perles sont troubles et mal colorées. Ce même est compus au diamant. Ce hilton ou tempeste au temps de la conception des perles, elles se défont et vont à néant. Donc la marguerite ou la perle est appelée oignon, car elle possède plusieurs couches et à plusieurs côtés, l'un après l'autre, comme un oignon. Elle est conçue dans les coquillages des rivages de la mer et les rives de certains fleuves, de la rosée du ciel. Si la rosée est tombée dans la matinée et qu'elle est pure et claire, alors les perles sont blanches et claires. Si la rosée est tombée le soir et n'était pas pure, les perles sont troubles et mal colorées. Le diamant est formé de la même façon. Et s'il y a du tonnerre ou une tempête au moment de la gestation, les perles se défont et disparaissent. Le diamant naît donc comme la perle de la rosée du ciel, mais il peut aussi se développer telle une excroissance sur une autre pierre, dont il prend alors la couleur, processus explicité dans le même lapidaire. Le diamant croeste aussi de la rosée du ciel en diverses montagnes et en plusieurs parties de la terre, c'est comme en Arabe et en Chypre, en Macédoine et autres parties. Il croeste aussi sur diverses montagnes et sur roches de cristal, et ceux sont de blanches couleurs, c'est comme de cristal, mais ils ne sont mi-troubles. et autres crues sur roches de magnésie et sont de couleur de fer. Et les autres crues sur montagnes auxquelles il y a veines et minières d'or et sont de couleur jaune. La fin de l'article précise qu'il faut porter la pierre sur un anneau de fer ou d'acier afin qu'elle se régénère au contact de ces métaux et conserve ainsi ses vertus. Jean Demain va jusqu'à présenter le diamant, dans la partie encyclopédique du roman de la Rose, comme la quintessence de l'or, selon un processus alchimique qui ferait du métal précieux la substance mère de toute gemme. Les lapidaires rapprochent le diamant et la magnétite, car ce sont deux pierres de couleur fer à l'état brut et qui possèdent des vertus voisines liées à leur magnétisme. De fait, leur pouvoir s'organise selon une dichotomie attraction-répulsion. Les vertus de la magnétite s'exercent dans des domaines aussi variés que l'amour, le cambriolage ou la navigation. Mise sur la tête d'une femme endormie, la magnétite sert de pierre de touche à la fidélité féminine. La femme fidèle embrassera son mari tout en dormant. La femme adultère tombera du lit. Pour pouvoir cambrioler une maison en toute tranquillité, il suffit de répandre de la magnétite réduite en poudre aux quatre angles de la bâtisse, ce qui fera s'enfuir les occupants de peur. Appelée également pierre des marins, la magnétite s'utilise comme boussole. Elle guérit les maladies liées à l'eau, au feu, au fer. Ses pouvoirs sont cependant neutralisés par la présence du diamant, avec lequel elle forme un couple minéral. Le diamant a quant à lui la capacité de repousser le malheur, le mal en général. Par exemple le venin, la folie, les forces diaboliques, et rend celui qui le porte invincible selon les Timons à Damas. Impossible à tailler du fait de sa dureté extrême, le diamant ne peut être ramolli que s'il est trempé dans du sang de bouc chaud, disent des lapidaires, ou du sang de dragon. Les éclats de diamant, comme de nos jours, servent à tailler les autres gemmes. Les lapidaires, on l'a dit tout à l'heure, précisent qu'il faut porter cette pierre du côté gauche. Si le diamant est fortement associé au sens propre comme au sens figuré au côté gauche, d'autres gemmes présentent une prédilection pour l'un des cinq sens. C'est donc toujours en se fondant sur la réalité physique que se tissent les chevaux des symbolismes. L'émeraude, la pierre de la vision, en est un exemple probant. L'émeraude est chargée d'une lourde tradition ésotérique. Les textes apocryphes racontent que Lucifer portait une émeraude au milieu du front et qu'il l'aurait perdue lors de sa chute. Certains traités ésotériques identifient cette pierre au Graal. Les principes de l'alchimie auraient été gravés sur une gigantesque émeraude, appelée dès lors la table d'émeraude. Les lapidaires présentent tous l'émeraude comme la pierre verte par excellence. Son éclat est tel qu'il verdit l'air environnant. Un bain d'huile d'olive ou parfois de vin lui permet de retrouver sa teinte. Les textes rapportent comment les arimaspes qui vivent en Orient doivent combattre les griffons pour pouvoir s'emparer des émeraudes. Donc là, je vous ai mis une illustration, une enluminure donc tirée du célèbre manuscrit du Dévisement du monde de Marco Polo. On y voit donc des griffons, mais là, les arimaspes n'ont pas été représentés, ils ont été remplacés par de simples chercheurs de pierres précieuses. L'émeraude a d'emblée partie liée avec le monstrueux. Les arimaspes sont des hommes qui n'ont qu'un œil, et les griffons sont des monstres hybrides, mi-lion, mi-dragon. Rappelons que l'étymon grec du mot dragon, le grec d'arkomai, signifie regarder, fixer du regard. Le dragon serait redouté pour son regard mortel, comme le basilic. A contrario, voir l'émeraude s'avère dangereux pour le serpent, donc avatar du dragon, qui en perd la vue. L'émeraude est donc intimement liée au sens de la vue. Par ses vertus, ses origines, mais aussi les créatures qui l'entourent. En outre, dans l'esthétique médiévale, le vert est considéré comme la couleur médiane aux vertus apaisantes pour le regard. Bénéfique pour les yeux, cette couleur verte améliore la vue et soigne les maladies ophtalmiques. C'est en portant et en regardant la gemme qu'on peut profiter de ses vertus, conformément à deux des posologies de Philippe de Temps. Pierre de la vision, l'émeraude permet de mieux voir la réalité, mais aussi de voir au-delà des apparences, pour retrouver un objet perdu ou pour voir la réalité sous le mensonge. Elle permet aussi de pratiquer la divination. Il existe plusieurs anecdotes légendaires sur un miroir en émeraude qu'aurait utilisé l'empereur Néron. Selon les lapidaires chrétiens, ce miroir en émeraude servait à déceler les mensonges. En effet, l'émeraude ne supporte pas la trahison et empêche celui qui la porte d'être trahi. En revanche, si le porteur s'avère être un traître, la pierre perdra tous ses pouvoirs. La première version romane du lapidaire de Marbotte de Rennes dit que Néron s'en servait pour regarder les jeux du cirque. Comment et surtout pourquoi? Deux interprétations sont possibles. Ou bien Néron regardait seulement le reflet des jeux, afin de ne pas regarder directement la violence des combats, ou bien l'empereur regardait les jeux à travers cet écran pour atténuer la lumière du soleil. Il convient ici de rappeler que les premiers verres de lunettes et de loupes ont été taillés dans du béryl, et cet usage a perduré jusqu'au XIVe siècle. Le nom bésicle est une déformation de béricle, variante de béryl. Il a été supplanté au XVIIe siècle par le nom lunette. Donc l'espagnol béryl et l'allemand brille témoignent de la diffusion de ce vocable dans l'Europe médiévale. Or, l'émeraude est parfois présentée comme une variété de béryl, ce qui peut expliquer cet usage de la gemme comme ancêtre des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Cette couleur verte évoque évidemment la nature. L'émeraude favorise la floraison en attirant les abeilles et protège du mauvais temps, plus exactement des tempêtes. L'émeraude évite les dérèglements météorologiques. Elle exerce une influence sur l'homme, mais aussi sur le monde qui l'entoure. À l'instar du saphir, surnommé la gemme des gemmes. Donc passons maintenant au saphir. Jusqu'au XIIIe siècle, le terme saphir désignait en fait le lapis lazuli. Cette gemme bleue permet de rester sain de corps et d'esprit. Le saphir est susceptible de soigner toutes sortes de maladies. Il faut pour cela le boire broyé dans du lait. Donc je vous lis la traduction du texte que j'ai reproduit. Elle apporte un grand réconfort au corps. Elle préserve les membres entiers et robustes. Elle efface la jalousie et la méchanceté et délivre de prison. Elle possède une très grande valeur. Celui qui la porte n'aura pas peur. Elle fait se réconcilier les hommes en colère. Celui qui la porte ne sera pas effrayé. Sa nature lui permet de faire voir dans l'eau ce que personne ne sait ni ne connaît. Elle est très utile en médecine. Elle refroidit l'homme qui a trop chaud, qui brûle d'un feu intérieur et transpire excessivement sous l'effet de la douleur. Broyée et mélangée avec du lait, elle est efficace pour soigner les maladies de peau. Elle ôte les impuretés des yeux et soigne la migraine. Elle guérit les aphtes et facilite le transit. Les lapidaires octroient unanimement au saphir le pouvoir de faire s'échapper de prison. L'homme qui possède la pierre conserve une entière liberté. La première version du lapidaire de Marbode indique laconiquement que la pierre délivre de prison. Ce pouvoir a été repris et amplifié par les lapidaires postérieurs, signe que cette caractéristique a suscité l'intérêt des clercs. Le lapidaire chrétien, dans sa première partie d'inspiration païenne, fournit un mode d'emploi de la gemme, qui se retrouvera dans les lapidaires en prose. Le saphir empêche l'homme d'être pendu, rend sa capture difficile. Il sera libéré s'il est pris. Le livre enseigne au prisonnier de toucher avec le saphir les quatre angles de sa cellule et de ses fers. Il n'aura rien à craindre s'il est persuadé que Dieu le délivrera. C'est ce que nous trouvons dans le livre. Le lapidaire de Jean de Mandeville répand la même croyance avec quelques variations. Je cite « Et s'il touche avec le saphir les trois parties de son visage et les liens de fer auxquels il est attaché, ainsi que la porte de sa cellule, le prisonnier sera immédiatement délivré. » Alors que l'escarboucle, dont l'unique vertu est de briller la nuit, a retenu l'attention des clercs pour devenir la gemme littéraire par excellence, le saphir et son pouvoir de délivrer de prison ne sont pas passés dans la littérature médiévale. En homme de savoir, les clercs connaissaient bien les lapidaires. C'est donc délibérément qu'ils ont renoncé à exploiter la vertu du saphir liée à la prison. Pourquoi ? Le silence des clercs peut s'expliquer par les autres propriétés que les lapidaires attribuent à cette pierre, notamment celle qui découle de sa couleur. Sa couleur bleue a souvent été admirée et comparée à celle du ciel, du domaine divin. Le saphir est progressivement devenu la gemme du roi, du représentant de Dieu sur terre, puis de l'aristocratie en général. Au XIIIe siècle, le lapidaire de Modène débute son article sur le saphir par ces vers. Je traduis. Le saphir a une très grande valeur, de nombreuses vertus et une grande puissance. Plus on le connaît et plus on l'honore. Sa seigneurie le situe au-dessus des autres. Qu'il s'agisse d'un duc, d'un prince, d'un comte ou d'un roi, chacun l'apprécie énormément à son doigt. Il ressemble par sa couleur au ciel pur. En relation avec le culte marial qui se prend de l'ampleur, l'héraldique parachève la promotion de cette couleur, comme l'explique Michel Pastoureau dans son ouvrage intitulé « Le bleu ». Depuis la fin du XIIe siècle, et peut-être même un peu plus en amont, le roi capétien use d'un écu d'azur semé de fleurs de lys d'or, c'est-à-dire d'un écu à fond bleu parsemé à intervalles réguliers de fleurs stylisées de couleur jaune. Il est à cette époque le seul souverain d'Occident qui porte du bleu dans ses armoiries. Cette couleur, qui fut d'abord dynastique avant de devenir strictement héraldique, a probablement été choisie, quelques décennies plus tôt, en hommage à la Vierge, protectrice du royaume de France et de la monarchie capétienne. La promotion du bleu touche conséquemment les gemmes de la même couleur, et surtout le saphir. Dès lors, le saphir accède au sommet de la hiérarchie des gemmes, comme l'explique la seconde version en prose des lapidaires anglo-normands au milieu du XIIIe siècle. Je cite la traduction « Le saphir convient à Dieu, au roi et au comte. Seigneur Dieu aima tant le saphir qu'il l'appela Sainte Pierre, et gemme des gemmes. » Quand on regarde le saphir, on doit avoir la pensée et le cœur tournés vers le règne céleste. Une telle suprématie apparaît donc incompatible avec la vertu qui permet de s'échapper de prison. Bien prosaïque, cette dernière ne soulève pas la question de la culpabilité ou de l'innocence du prisonnier. Elle semble effective dans tous les cas. L'unique condition, précisée dans le lapidaire chrétien, étant que le prisonnier soit croyant. Utiliser cette vertu du saphir en littérature aurait risqué de rejeter l'opprobre sur la plus noble des pierres. Cette hypothèse explique pourquoi cette vertu de délivrer de prison, qui aurait pu donner lieu à tant de développements romanesques, est restée lettre morte. L'évolution des mentalités fait préférer à la fin du Moyen-Âge le saphir à l'escarboucle. Ce changement dans le goût pour les couleurs et donc pour les gemmes se retrouve au XVIe siècle dans l'œuvre de Rabelais. Dans Gargantua, le héros éponyme porte une escarboucle. Dans le tiers-livre, Panurge offre un saphir au poète Raminagrobi. Les quatre pierres que nous venons de présenter comptent parmi les plus célèbres et les plus prestigieuses pour la mentalité médiévale. Elles sont dotées d'extraordinaires pouvoirs, essentiellement bénéfiques. C'est le cas de la grande majorité des gemmes. Pourtant, certaines pierres sont néfastes et malignes. Leur couleur est significative, ce sont les gemmes noires. La pierre néfaste par excellence est l'onyx. Sa couleur noire s'assortit de pouvoirs négatifs que les lapidaires notifient afin de mettre en garde les lecteurs. Je traduis le premier article. L'onyx est une pierre noire avec des veines blanches, rouges ou bleues. Elle n'a pas beaucoup de vertus, mais des vices. Portée au cou ou au doigt, elle fait voir les diables et de nombreux fantômes en dormant, provoque des colères, suscite des querelles. Mais la pierre donne des facilités. Si on la pend au cou d'un enfant, elle le fait saliver. Et si on la pend au cou d'un homme, elle augmente la tristesse et développe toutes les maladies causées par la mélancolie. Certains textes lui attribuent cependant le pouvoir de garder en bonne santé. Je cite « L'onyx rend hardi, courageux et coléreux. Et si celui qui le porte en pendentif ou en bague veut parler de nuit à son défunt ami, il lui parlera en dormant, et au matin il se souviendra de ce dont le défunt a besoin. Et la pierre fait le salut et augmente la beauté de celui qui la porte. L'onyx est noir. » Ces vertus positives de l'onyx préfigurent la promotion de la couleur noire, qui va s'affirmer au XIVe siècle, dans les mentalités comme dans les vêtements. Les pouvoirs de l'onyx peuvent être annulés par la sardoine, pierre jumelle de l'onyx, selon la logique de l'inversion. Autre pierre noire, la Mède, quant à elle, tient son nom de Médée. Cette gemme ambivalente possède les pouvoirs de mort et de vie. La première version romane en prose du Délapidébus de Marmotte de Rennes en énumère les vertus médicinales, donc positives, puis les vertus négatives, notamment la capacité de rendre aveugle. Cette pierre peut également s'utiliser comme poison et fait mourir de la mort noire, le surnom de la peste. Les deux facettes de ces pouvoirs sont présentées en termes de couleurs avec une opposition noir-blanc qui marque bien que l'antinomie des qualités s'organise autour d'une dichotomie chromatique. Donc, je cite lapidaire de Cambridge, « Cum mal fait est noir clamé, cum bien fait est blanche nommé. » Donc, quand elle fait le mal, elle est appelée noire. Quand elle fait le bien, elle est nommée blanche. Le plus prolixe, le lapidaire de Jean de Mandeville, attribue à la Mède de nombreux pouvoirs. Donc, je vous traduis l'article que vous voyez. La Mède est une pierre qui vient du royaume de Médée. Les unes sont vertes et les autres presque noires, d'une couleur exquise. Si on la réduit en poudre avec une roue à aiguiser verte et qu'on la mélange avec le lait d'une femme qui n'a eu pour enfant qu'un garçon, elle redonne la vue que l'on a perdue depuis longtemps. Et si on la mélange avec le lait d'une brebis qui n'a eu qu'un agneau mâle, elle guérit les hémorroïdes anciennes, les délires et les maladies des branches. Cette préparation doit être conservée dans un récipient d'argent ou de verre et doit être donnée avec du vin. Si on broie la pierre sur une roue à aiguiser et qu'on la mélange avec de l'eau et qu'on donne le mélange à son ennemi pour qu'il se lave les yeux, il perdra immédiatement la vue. Et si on le donne à boire à son ennemi, il crachera immédiatement ses poumons et mourra. Cette dernière pierre est donc doublement négativisée par sa couleur noire et par le personnage légendaire auquel elle est associée. Tout se passe comme si la noirceur de Médée avait infecté tout son royaume, y compris l'espace souterrain qui renferme les pierres. Cette porosité se retrouve avec les gemmes qui naissent dans les bestes et qui héritent de tout ou partie de leurs caractéristiques animales. En effet, certaines pierres naissent dans les animaux, plus précisément dans les bêtes sauvages. Donc il convient de se demander ce que ces gemmes héritent de la bestialité, ou plus exactement comment se traduit cette origine animale dans leurs couleurs et leurs vertus. Donc juste quelques exemples. La panthère, donc c'est à la fois le nom de l'animal et de la pierre. La robe tachetée de la panthère, donc que vous trouvez représentée ici, donc robe tachetée de façon plutôt fantaisiste, mais tachetée. Donc la robe tachetée de la panthère se retrouve dans la polychromie de la gemme qui porte le même nom. Si la polychromie était dépréciée au Moyen-Âge, la panthère semble faire exception. Les bestiaires ne tirent aucune considération négative de son pelage bigarré. Avatar féminin du léopard, la panthère possède une image fortement positive et répand une odeur suave. C'est ce qu'on voit ici, en fait. Elle a une haleine suave qui attire tous les animaux, sauf le dragon qui s'enfuit ou qui se cache, comme ici en bas. La pierre hérite de cette image améliorative. Elle permet de remporter les batailles et tempère les sentiments. Le lapidaire de Jean de Mandeville lui consacre un long développement. J'en ai reproduit une partie que je vous traduis. La panthère est une pierre multicolore, appelée ainsi en référence à la panthère qui est un animal de plusieurs couleurs. Elle présente plusieurs veines de teintes variées, de telle sorte que toutes les couleurs se retrouvent dans cette pierre. Le rouge, le vert, le blanc, le pourpre, le rose. Et cependant, ces couleurs ne sont pas mélangées. Mais chaque couleur conserve sa place distincte, comme avec des veines. Celui qui regardera cette pierre le matin ne devra avoir aucune crainte, car ce jour-là, il ne pourra pas être vaincu, car elle protège celui qui la porte de tout danger et apaise les sentiments excessifs. On la trouve en Inde, en Éthiopie, en Libye, en Arabie. Autre pierre, le ligure, parfois confondu avec l'ambre, est considéré au Moyen-Âge comme de l'urine de lynx fossilisée. La pierre se présente sous différentes nuances en fonction de la couleur de l'urine. Et du fait de son origine, elle possède des vertus liées au système urinaire et au ventre. Donc la férocité de l'animal n'a pas ici non plus d'incidence sur les vertus de la gemme. Donc je passe pour la citation et je termine donc avec la dracontite dont on a parlé tout à l'heure. Donc le nom de la gemme qui naît dans la tête du dragon, souvent identifié à l'escarboucle. Le dragon, on l'a vu, est pour la mentalité médiévale, un avatar du serpent, d'où les vertus liées au venin et aux bêtes venimeuses. L'animal qui incarne le mal génère une pierre qui provoque l'innocuité du poison. Donc je traduis le passage que je vous ai reproduit. La dracontite est la pierre trouvée dans la tête du dragon dans des régions d'Orient, qui détruit le venin, empêche les empoisonneurs de nuire et protège celui qui la porte des bêtes venimeuses. L'eau dans laquelle elle est lavée est efficace contre le venin comme la thériaque. Et si un abcès venimeux est lavé avec cette eau, elle lui enlève alors toute nocivité et toute malignité de cette façon et sans aucun danger. Ces pierres d'origine animale constituent un moyen terme entre le règne animal et le règne minéral, témoignage des passerelles génériques entre le bestiaire et le lapidaire. Les textes leur accordent des vertus en étroite relation avec l'animal souche dont les pierres récupèrent les qualités ou bien annulent les vices. Dans la mesure où les pierres sont elles-mêmes considérées comme des créatures, les bestiaires leur consacrent parfois des articles entiers. Il est temps de conclure. Ces quelques exemples de pierres mettent en évidence la myriade de vertus recensées par les lapidaires. Cette variété est le miroir de la varietas de la création. Pour orner et embellir le monde, Dieu l'a peuplé de créatures diverses, dont les gemmes font partie. Si l'on suit une gemme à travers l'ensemble des lapidaires, on constate que le clerc médiéval est constamment tiraillé entre le devoir de tradition, à répéter ce que disent les prédécesseurs, et le désir d'innovation, à ajouter de nouvelles vertus à la liste des précédentes. C'est dans le domaine romanesque que les clercs pourront donner libre cours à leur imagination en matière minéralogique. Trois procédés se distinguent alors, le collage, la composition et le pastiche. Avec le procédé du collage, les clercs insèrent un article de lapidaire dans leur texte romanesque pour étoffer une ekphrasis, par exemple. Par le biais de la composition, ils décrivent une gemme constituée d'un patchwork de particularités et de vertus empruntées à différentes pierres. Quant au pastiche, il n'est identifiable que par les clercs puisqu'il ressemble à s'y méprendre à un véritable article de lapidaire dont il reprend le plan et le style. Ainsi se tissent de multiples passerelles entre les textes encyclopédiques et romanesques qui partagent au Moyen-Âge une même vocation didactique. Je vous remercie.